France Inter.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, il y a très longtemps en Grèce, Ulysse, cette fois, est confronté non pas à des drogués qui mangent du lotus pour échapper au monde réel, non pas à un cannibale écolo qui ne serait pas si antipathique que ça s'il n'avait pas mangé goulûment des compagnons d'Ulysse, le cyclope. Il n'est pas confronté à un père de famille tranquille qui, depuis sa forteresse bien étanche et flottante, déchaîne les pires tempêtes, Éole, le maître des vents. Et il n'est plus confronté à une tribu de dingues, Hélès Trigon, qui dévore tout étranger qui les approche. L'être qu'il doit affronter est une femme sublime, très belle et artiste, Circé, une déesse fille du soleil. Elle habite en souveraine sur une île au bout du monde, très loin à l'est, du côté de l'aurore et de lever du soleil, son père.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
Cette femme chante et tisse à ravir. Mais elle est dangereuse. Circé est une magicienne. Elle a une connaissance très précise et très efficace des drogues. Pas seulement pour faire oublier la réalité environnante, mais aussi pour transformer les hommes en l'animal qu'elle veut. Elle habite un palais magnifique, fait de pierres bien lisses, bien ajustées. Autour, il n'y a pas de parc, de jardin, de culture, comme on pourrait s'y attendre, mais la forêt, à perte de vue. Une forêt dense, sauvage, mais qui ne ressemble à aucune forêt. Circé a le pouvoir de tout transformer. Son palais est entouré de bêtes sauvages, normalement féroces, des lions et des loups, les animaux fétiches des grands héros guerriers. C'est à eux qu'ils sont comparés dans le poème sur la guerre de Troie qu'est l'Iliade, quand ces héros se lancent dans des actions courageuses et meurtrières. Mais chez Circé, ces animaux sont doux, câlins. Ils remuent leur queue, comme de bons chiens, quand on les approche. Peut-être ces bêtes sauvages, dénaturées et adoucies, étaient des humains, avant que Circé ne les traite à sa manière. Qui peut le savoir ?
Qu'est-ce qu'il y a ? Il se passe de drôles de choses. Cette sacrée barre nous entraîne à gauche.
Hop ! Il y a quelque chose d'étrange. Le vent souffle, mais la voile ne le prend pas. Le navire est comme immobilisé.
Peut-être bien le courant.
Mais il n'y a pas de courant. Nous ramons vers le large, mais nous sommes attirés vers l'île par une force inconnue.
Descendez la voile. Nous allons à terre.
Débarquer ? Je t'en supplie, Lys. Tu ne sais pas ce qui peut nous attendre derrière ces rochers.
Non, mais j'aimerais le savoir, justement.
Descendez la voile !
Ulysse est inquiet. Avec ses hommes, il a débarqué sur cette île inconnue. Il s'occupe d'abord de nourrir son équipage en chassant un grand cerf. Puis il décide d'envoyer plusieurs de ses hommes, 23, explorer l'île pour savoir quel genre de société vit là. Personne n'est volontaire. Les compagnons n'ont aucune envie de s'aventurer dans cette île. Ils sont morts de peur. La dernière fois que des hommes envoyés par Ulysse ont exploré une terre inconnue. Ils ont déclenché la violence vorace d'anthropophages, les méchants, les strigons, qui n'ont pas fait de quartier. Les compagnons d'Ulysse n'ont aucune envie de retenter l'expérience. Ulysse doit alors agir en roi, montrer son autorité politique. Il divise son équipage en deux groupes, fait tirer au sort lequel s'aventurera dans la forêt. Une moitié de son équipage part en reconnaissance, contraint et forcé. Ils voient le palais de Circé, entendent sa voix magnifique et sont séduits. Ils entrent, se font divinement recevoir par la divine sorcière. Circé leur offre un breuvage de sa composition, un mélange bizarre, un fort remontant. Elle y a introduit une drogue. Les hommes sont transformés en porcs ou en sangliers. Et à la baguette, Circé les conduit vers l'enclos d'une porcherie. Ils pleurent, car ils ont gardé leur esprit humain et se lamentent sur leurs nouvelles conditions. Un de ces hommes n'est pas entré chez Circé. Il s'est méfié. Il va vite avertir Ulysse de la disparition de ses camarades. Ulysse réagit en bon héros. Il prend son épée et marche vaillamment vers le palais de Circé. il serait allé à sa perte si le dieu Hermès n'était pas intervenu. Hermès, le dieu malin, souvent fourbe, le dieu qui trouve des solutions là où tout paraissait désespéré. Ce dieu aime bien Ulysse, c'est son arrière-grand-père. Ulysse est malin et souvent fourbe comme lui. En plus, Hermès est le messager attitré de Zeus. Son intervention veut dire que Zeus a décidé de sauver Ulysse, de ne pas laisser Circé l'ensorceler et le perdre. Hermès arrête Ulysse en pleine course. Il le met en garde. Il arrache du sol une plante magique qui bloquera les tours de magie de Circé. Cette plante, les hommes ne la connaissent pas, tellement elle est difficile à arracher du sol. Elle a une racine noire, comme la terre, et une fleur toute blanche, comme la lumière du ciel. Grâce à elle, les drogues de Circé ne pourront rien contre Ulysse. Il ne sera pas transformé en animal, comme ses compagnons. Mais ça ne suffit pas. Hermès annonce à Ulysse que, se voyant vaincu, Circé lui proposera de coucher ensemble, mais pour un amour plutôt vache, puisque l'intention de Circé sera de le châtrer. À nouveau, Hermès donne à Ulysse le moyen d'échapper à cette triste aventure. Cette fois, il ne s'agit pas d'une plante, mais de paroles. Ulysse devra faire jurer par Circé qu'elle n'a pas d'intention mauvaise à son égard. Elle devra jurer ce qu'on appelle un grand serment. Elle jurera par le ciel, la terre, par l'eau infernale du Styx, cette eau glaçante qui vient de l'océan et coule jusqu'à la base de la terre. Comme la plante qu'accueillit Hermès, plante connue des seuls dieux et qui concentre en elle toute la structure du monde, avec le ciel et la terre jusqu'à son fond le plus lointain. Le serment rappelle à Circé qu'elle appartient à un monde cohérent, bien charpenté et bien structuré, avec des zones différentes, nettement distinctes, l'ombre inatteignable de la terre dans ses profondeurs, la blancheur du ciel. L'art de Circé consiste à tout confondre, hommes et animaux, amour et haine. Le potage qu'elle donne à boire est un mélange confus. La plante et le serment obligeront Circé à se rappeler que la réalité ne fonctionne pas comme ça. Il y a un ordre des choses, un cosmos solide et bien hiérarchisé. Avec sa plante qu'il cache, avec les conseils d'Hermès, Ulysse arrive au palais de Circé. Il signale son arrivée en criant. La magicienne, radieuse, lui ouvre les portes scintillantes de sa maison. Ulysse entre, avec tristesse. Elle le fait asseoir dans un fauteuil de grand luxe, orné de clous d'argent, avec un joli escabeau pour les pieds. Dans une coupe d'or, elle lui donne son breuvage, où elle a fait couler sa drogue. Il boit. Usant de sa baguette, Circé ordonne à Ulysse d'aller retrouver ses compagnons dans la porcherie. Mais Ulysse n'est pas transformé. Il est toujours lui-même. Circé n'en revient pas. Ulysse bondit sur elle comme un vrai héros, l'épée brandie, comme s'il devait affronter virilement un guerrier armé et féroce, du genre d'Hector ou de Sarpédon. Circé s'écroule, s'avoue vaincue, supplie, mais elle n'a pas renoncé à ses ruses. Elle lui propose l'amour.
Tirant le long de ma cuisse mon glaive, je sautai sur Circé comme pour la tuer. Elle, avec un grand cri, s'effondra, me prit les genoux et, tout en gémissant, me dit ces paroles ailées.
« Qui es-tu? D'où viens-tu? Quels sont tes parents et ta ville? Je m'étonne que tu aies bu sans être ensorcelé, car jamais n'a résisté à cette drogue un mortel qui en but et qui lui fit franchir l'enclos de ses dents. Tu dois avoir dans la poitrine un esprit invincible. Tu es sans doute cet Ulysse de ressources dont toujours Hermès à la baguette d'or m'annonçait qu'il viendrait à son retour de Troie sur son prompt vaisseau noir. Alors rengaine ton épée et montons tous les deux sur notre lit pour que, la joie d'amour nous unissant, nous puissions désormais avoir confiance l'un dans l'autre. »
Mais Ulysse sait à quoi s'en tenir. Il est trop tôt pour la tendresse. Il faut d'abord qu'elle jure, par un grand serment solennel, qu'elle ne va pas le châtrer, qu'elle ne lui fera aucun mal. Elle jure. Docilement, ils se retrouvent tous les deux dans son lit, un très beau lit.
Quand elle eut prononcé et scellé le serment, je montai sur le lit très beau de la déesse.
Que c'est étrange. Tu as le même visage et les mêmes yeux que ceux de Pénélope. C'est étrange.
Pourquoi est-ce étrange? La différence entre une femme et une autre n'éduque qu'à l'imagination des hommes.
Non, cette différence existe. Pénélope pourrait refuser qu'un étranger la tienne dans ses bras.
Et si cet étranger ressemblait à Ulysse?
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe.
Oui.
Pierre Judet de Lacombe raconte les amours mouvementés d'Ulysse et de Circé la sorcière.
Les servantes de Circé s'activent. Elles donnent à la maison un air de fête et préparent un bon bain réparateur pour Ulysse.
Cependant, les servantes s'affairaient dans la demeure. Il y en avait quatre au service de la maison. Elles étaient enfants des sources, des bosquets et des fleuves sacrés qui coulent vers la mer. L'une jetait sur les fauteuils de superbes étoffes de pourpre, après avoir mis dessus un linon. La seconde, face aux fauteuils, dressait des tables en argent et posait dessus des corbeilles d'or. La troisième mêlait un doux vin au bouquet de miel dans un vase d'argent et disposait des coupes d'or. La dernière apporta de l'eau et alluma un feu ardent sous un trépied. L'eau se chauffa. lorsque l'eau eut bouilli dans le bronze luisant, elle me conduisit au bain, fit délicieusement tiédir l'eau du bassin dont elle me baigna la tête et les épaules pour chasser de mon corps l'épuisement.
Cette fois, il n'y a pas de breuvage douteux, pas de drogue. Tout se fait comme ce doit être fait quand on reçoit un grand hôte dans les règles. L'étonnant est que ce luxe d'attention raffinée est déployé par des filles issues de la nature sauvage, des sources, des bois, des fleuves. Chez Circé, tout peut se confondre. Art et nature sont mêlés. Dans son palais de rêve au milieu des forêts, ce n'est pas la grotte de Calypso au centre d'un jardin sophistiqué, c'est l'inverse. La civilisation et la nature montrent ensemble ce qu'elles ont de mieux. Ulysse, lavé, enduit d'huile fine, élégamment vêtu, n'a pas faim. Il pense à ses compagnons qu'il n'a toujours pas revus. Il ne touche pas à la nourriture qu'on lui offre.
Ô Circé, quel est l'homme ayant quelque justice qui oserait toucher à ce pain ou à ce vin avant d'avoir revu, sauvé ses compagnons? Si c'est loyalement que tu m'invites à manger, délivre-les d'abord, que je revoie mes compagnons.
Circé se lève immédiatement, va ouvrir les portes de la porcherie et avec sa baguette fait sortir les pauvres compagnons. Elle les enduit d'une contre-drogue. Ils perdent leur corps de cochon et redeviennent des humains, en mieux, en beaucoup plus beaux qu'ils n'étaient avant leur métamorphose.
Ils redevinrent des mortels plus jeunes qu'ils n'étaient, beaucoup plus beaux encore et plus grands d'apparence. Chacun me reconnut, il me prenait la main. Tous sentaient le désir des pleurs et la maison retentissait de cris. Circé même s'attendrissait.
Normalement, ce genre de traitement qui donne des forces, de la beauté et de la jeunesse est réservé aux chefs, aux héros. Athéna se livre plusieurs fois à ce genre d'opération rajeunissante sur Ulysse, quand il s'agit de le requinquer et de le rendre séduisant. Dans l'Iliade, les grands guerriers en difficulté au cours d'un combat voient leur corps transformé, renforcé par l'intervention d'une divinité qui les soutient. Là, c'est tout le monde, tout l'équipage. Pour une fois, les hommes de troupe ne sont pas oubliés. Mais est-ce que cette solidarité, cet esprit de communauté va tenir? Pas sûr. Ulysse et ses hommes sont promis à une séparation radicale. Les hommes ne survivront pas. Pour le moment, c'est la fête. Circé demande à Ulysse de mettre son bateau à sec sur la plage, de ranger les agrès dans des grottes pour qu'ils soient protégés. Ce n'est pas une courte étape qui s'annonce. Un vrai bonheur collectif semble bien s'établir pour longtemps. Ulysse repart vers la côte où il a laissé son navire et la moitié de son équipage. Les retrouvailles sont attendrissantes. Mais décidément, Homère ne peut s'empêcher, comme souvent, d'être ironique.
Je regagnai le prompt navire et le bord de la mer. Je retrouvai au prompt vaisseau mes compagnons fidèles, gémissant piteusement et pleurant à chaudes larmes. Comme les veaux des parcs vont tous ensemble bondissant au-devant du troupeau des vaches rentrant à l'étable, quand elles sont rassasiées d'herbe, et même les enclos ne les retiennent plus, avec des meuglements, ils courent tout autour de leur mère. Eux de même, quand ils me virent, éclatèrent en pleurs. Il semblait à leur âme qu'ils eussent retrouvé leur pays, leur cité, dans la rocheuse Ithaque, où ils grandirent et naquirent.
Les 22 hommes d'équipage qui étaient restés sur la plage ont eu la chance de ne pas être transformés en cochons. Mais la poésie, qui sait manier les comparaisons subjectives, en fait des petits veaux. Et ces petits veaux sont heureux en revoyant Ulysse, comme s'ils avaient retrouvé leur île. Mais ils en seront éloignés à jamais. Pour le moment, c'est l'heure des retrouvailles. Quand il retourne au palais de Circé avec les compagnons qu'il ramène de la plage, Ulysse découvre que généreuse, égalitaire, Circé traite somptueusement les compagnons qu'elle avait changés en porcs. Ils ont droit au même luxe que lui, Ulysse.
Pendant ce temps, Circé, dans sa demeure avec grand soin, baignait mes autres compagnons, les oignait d'huile, les vêtaient d'une robe et d'un manteau de laine. Nous les trouvâmes tous à festoyer dans la demeure.
Les manteaux de laine. Ce vêtement est normalement réservé aux gens riches. L'ironie continue. Après avoir été transformé en porc, voilà les compagnons avec sur le dos de la laine de mouton. Le bestiaire est très varié. Mais la joie n'est pas encore au rendez-vous. Les épreuves vécues ensemble restent trop traumatisantes. Il faut que Circé redonne du courage à toute cette troupe. Le remède, cette fois, ne sera pas magique. Ce sera de manger, de boire, de faire la fête abondamment pendant des jours et des jours.
À l'heure de se revoir, de se retrouver face à face, il pleurait, gémissait, emplissant de cris la maison. Circé la merveilleuse, en s'approchant, me dit
« Fils de Laërte, enfant de Zeus, industrieux Ulysse, séchez ces pleurs brûlants. Je sais bien, moi aussi, quels tourments vous avez souffert sur la mer aux poissons, quel mal sur terre vous ont fait des hommes sans justice. Mais allons, mangez donc ce pain, buvez ce vin, jusqu'à ce que vous retrouviez ce même cœur que vous aviez quand vous quittiez votre patrie et la rocheuse Ithaque. Vous êtes las et abattu, obsédé par vos tristes errements, et votre cœur, tant vous avez souffert, ne connaît plus la joie. »
En entendant ces mots, notre âme fière obtempéra.
Un festin devrait donc effacer la tristesse. Encore une fois, il y a beaucoup d'ironie dans cette scène. Circé fera manger et boire Ulysse et ses compagnons pour qu'ils retrouvent la joie, pour qu'ils retrouvent l'énergie, l'ardeur courageuse qu'ils avaient quand, autrefois, ils se sont embarqués pour aller conquérir Troie. Mais justement, c'est cela qu'ils ne veulent plus. C'est ce départ et tout ce qui est arrivé à cause de lui qui les fait pleurer. Ils ne veulent pas penser à ce moment d'illusion. Ils veulent le contraire, revenir à Ithaque, ne plus entendre parler de tout ce malheur. Mais pour un temps, ça marche. Ulysse et ses compagnons font ripaille pendant toute une année. Ils mangent et boivent dans une douce ivresse. Ils sont contents.
Alors, de tous les jours jusqu'au bout de l'année, nous restâmes assis devant force viande et vin doux.
C'est enfin le bonheur, un long bonheur. Ce qu'Homère ne dit pas, c'est que pendant tout ce temps béni, Ulysse et Circé se sont aimés. Une tradition que visiblement ils connaissaient, mais qu'il ne veut pas reprendre à son compte, dit qu'ils ont eu un enfant. Il portait un nom qui ressemblait à celui de Télémaque. C'était Télégonos, qui veut dire « celui qui est né au loin ». Ce gamin aura une longue histoire. Un poète, plus récent qu'Homère, Eugamon de Cyrène, lui a consacré une épopée, la Télégonie, qui s'est perdue. De ce poème, nous ne connaissons que quelques mots, un résumé, et nous lisons des allusions chez les auteurs anciens. Ce gamin aura une longue histoire. Parti à la recherche de son père, Ulysse, il ne le reconnaîtra pas et le tuera. Puis, il épousera Pénélope, devenue veuve, et Télémaque épousera Circé, la mère de Télégonos. La déesse rendra tout ce monde immortel. Mais ça, c'est pour plus tard, on y reviendra. Homère, lui, ne s'intéresse pas du tout à cette histoire rocambolesque et embrouillée où les générations se mêlent. Certains anciens ont trouvé cette légende misérable. Ils n'y ont pas cru. L'année de plaisir et de fête chez Circé s'achève. C'est le printemps. La saison où la navigation redevient possible est revenue. Les compagnons ont envie de repartir, de rentrer chez eux à Ithaque. Ils le font savoir à Ulysse. C'est bizarre. Cette fois, c'est Ulysse qui semble oublier sa patrie et le retour, comme les hommes qui avaient mangé du lotus. Les compagnons, qui ne connaissaient pas les plaisirs de Circé, interpellent rudement leur chef.
Mais quand l'année finit, qu'on vit revenir le printemps, les mois ayant passé, le temps des longs jours revenus, mes compagnons fidèles m'appelèrent pour me dire « Ravagé des démons, il est temps de te rappeler ta patrie. » Si les dieux veulent que tu sois sauvé, que tu reviennes dans ta belle demeure et sur le sol de ton pays. » Ainsi parlèrent-ils, et mon âme fière accepta.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre.
This is love, fire, panic, attack.
Pierre-Judée de la Combe évoque l'année de fête et de bonheur chez Circé.
Ulysse doit être ramené à la raison, à ce qui était en fait son désir le plus profond, rentrer à Ithaque. Il est convaincu. Il célèbre avec ses compagnons la décision de reprendre la mer en mangeant et en buvant pendant toute une journée. Le soir, Ulysse monte à nouveau sur le lit de Circé, mais cette fois, c'est pour négocier leur séparation. Il demande à la déesse de les aider à continuer leur voyage vers Ithaque. Circé affirme tout de suite qu'elle est d'accord, qu'elle ne va pas les retenir contre leur volonté. Mais elle fait à Ulysse une annonce totalement inattendue et stupéfiante. La surprise et la déception sont énormes. Elle déclare qu'avant de partir pour Ithaque, Ulysse et ses hommes devront d'abord faire un voyage qu'aucun être humain n'a pu accomplir. Ils devront d'abord atteindre avec leur bateau le pays des morts, les enfers, le royaume obscur du dieu Hadès et de sa femme Perséphone, ce lieu d'où personne ne revient. Pour retrouver sa petite île, Ulysse devra passer par l'au-delà. Dans ce lieu extrêmement lointain, normalement inatteignable, Ulysse devra consulter un mort, le devin Tirésias. C'est le seul être, lui, un mort, qui pourra lui dire comment rentrer chez lui.
Fils de Laërte, enfant de Zeus, industrieux Ulysse, vous ne resterez pas à contre-cœur dans ma maison. Mais il vous faut d'abord entreprendre un autre voyage vers les maisons d'Hadès et de la grande Perséphone, afin d'y consulter l'âme du Thébain Tirésias, devin aveugle, mais encore doué de sens, car même mort, Perséphone lui a laissé à lui seul son esprit. Les autres ne sont qu'un vol d'ombre.
Tirésias, le vieux devin, est le seul parmi tous les décédés qui ait gardé son esprit, comme s'il était vivant. Les autres morts ne sont quasiment plus rien. Ce sont des ombres qui s'agitent ça et là, sans but. Un autre passage de l'Odyssée les comparera à des chauves-souris. C'est le paradoxe. Aucun être humain encore vivant ne peut dire à Ulysse quelle route il doit prendre pour rentrer chez lui. Il doit donc aller chez les morts, chez les ombres. Mais le mort qu'il devra interroger aura encore son esprit de vivant, bien ferme, solide. Rien n'est simple. Pour parvenir vivant chez lui, Ulysse devra se faire initier par un mort. Il devra avoir un pied dans l'au-delà pour un temps. Son expérience du monde sera complète, puisqu'elle comportera aussi celle de l'au-delà. Ulysse est abattu par ce que lui annonce Circé. Il voudrait disparaître, mourir vraiment, une fois pour toutes. Aller en bateau chez les morts, c'est par définition un voyage impossible.
En entendant ces mots, je sentis mon cœur éclater. Je pleurais sur ce lit, et je ne voulais plus être vivant, ni voir la clarté du soleil. Enfin, quand je me fus assez roulé dans les sanglots, je lui dis ces propos en guise de réponse. « Ô Circé, qui nous guidera dans ce voyage ? Nul vaisseau n'est encore parvenu chez Hadès. »
Circé le rassure, mais ce qu'elle annonce est plutôt effrayant. On change de monde, encore une fois. On va même au-delà du monde visible des vivants. Ce ne sont pas des monstres, des tempêtes, des affreux qu'Ulysse devra affronter, mais un univers lointain et compliqué, un univers qui est normalement invisible, le monde des morts, du dieu Hadès. Il faudra se repérer, ce qui demandera de l'intelligence. Il faudra accomplir méticuleusement des rites complexes et précis, redonner vigueur aux morts, mais en faisant très attention, comme si c'était des ennemis. Et surtout, il faudra ne laisser aucun mort s'approcher avant que n'ait parlé le devin Tirésias. Ulysse va devoir vivre une sorte de nuit des morts vivants. Circé donne à Ulysse une feuille de route très détaillée. On apprend comment se rendre aux enfers, chez Hadès, sans mourir, ce qui vaut mieux. D'abord, elle leur assure question navigation. Il suffira qu'il se laisse porter par le vent. Ce sera le vent du nord, le Borée, qui l'emmènera sur les flots de l'océan, à savoir sur cet immense fleuve qui tourne autour de toutes les terres. Cette indication veut dire qu'en quittant l'île de Circé, qui est du côté du Levant, à l'extrême est, et en entrant dans le fleuve océan, Ulysse fera route vers le sud. Le courant du fleuve le portera. Puis, un moment ou un autre, Circé ne dit pas quand, Ulysse traversera l'océan. L'expression « traverser l'océan » n'est pas très claire. Il ne s'agit pas d'aller en Amérique. L'océan est un fleuve qui délimite le monde. Au-delà, il n'y a rien. L'océan est la limite absolue. Circé veut sans doute dire à Ulysse qu'il doit se rendre à la limite extrême de ce fleuve. Il trouvera séparé des terres connues par un large courant de ce fleuve, le pays des morts, au-delà du bloc des terres que délimite le fleuve. Sur les bords de l'océan, Ulysse devra repérer un bois sur un littoral peu élevé. Ce sera le bois sacré de la déesse Perséphone, l'épouse du dieu Hadès, la Proserpine des Latins. Ce bois sera bien reconnaissable. Il est composé d'arbres qui poussent souvent ensemble, le saule et le peuplier noir. Les deux sont en lien avec la mort. Le peuplier noir est dédié à Perséphone, et le saule, nous dit Homère, détruit ses propres fruits. Il les fait tomber avant leur maturité. Ulysse devra laisser son navire dans les parages de ce bois et devra s'avancer à pied vers la maison fangeuse et pourrie du dieu Hadès. Ce n'est pas une maison attirante. Cette maison humide est au confluent de plusieurs fleuves au nom très lugubre. Le fleuve Achéron, Achéron, en grec ça veut dire le fleuve des chagrins. Dans ce fleuve se jette un autre fleuve appelé Puriphlegethon, le fleuve ardent de feu, ainsi que le fleuve Cocyte, Cocytos, le fleuve des lamentations. Dans le Cocyte, dit Circé, coule une partie des eaux du Styx, cette eau glacée qui fait horreur, qui vient de l'océan. Ce n'est pas gai du tout. Ces fleuves sont bruyants, leurs eaux tombent en cascade d'une grande roche. C'est là la demeure d'Hadès.
Pourquoi ces gens sont-ils trempés ?
Ils ont fait naufrage.
Et ceux-là ?
Ils reviennent de guerre.
Avancez, s'il vous plaît. Vous m'entendez ?
Ah. Quelque chose ne va pas.
Votre entrée n'est pas programmée pour aujourd'hui, monsieur. Conduisez monsieur chez Hadès. Avancez, s'il vous plaît.
Où se trouve cette triste maison ? Dans quelle partie du monde ? La question est très difficile. Les interprètes d'Homère ne sont pas d'accord entre eux, et j'avoue que j'hésite. Homère ne nous aide pas. Il aime trop les énigmes. Il nous demande de l'imagination. Mais jusqu'à quel point ? D'après la tradition la plus fréquente, Hadès, le dieu des enfers, réside non pas au bord de l'océan, comme il est dit ici, mais en bas, loin sous la surface de la terre, dans les profondeurs. Normalement, on descend dans les enfers, on n'y va pas en bateau. Dans son Iliade, Homère lui-même nous dit que les trois frères, Zeus, Poséidon et Hadès, se sont partagés équitablement le monde. Zeus a obtenu le ciel, Poséidon la mer et Hadès le monde souterrain. La terre, avec l'Olympe, est un domaine commun aux dieux. Hadès est en bas. Ça, c'est dans l'Iliade. Mais ici, dans l'Odyssée, Homère, ou plutôt les poètes qui ont repris son nom, ne suivent pas cette idée, puisque Ulysse est censé arriver dans la maison d'Hadès en naviguant, en suivant le cours du fleuve Océan. Homère ne dit pas qu'il va descendre vers les abîmes de la terre, il reste à la surface du monde. C'est vraiment bizarre. Homère semble même s'amuser de cette idée. Il fait dire à Ulysse
« Nul vaisseau n'est encore parvenu chez Hadès. »
Aucun bateau, c'est vrai, mais des mortels sans bateau ont déjà pu entrer vivants dans les enfers et en revenir. Héraclès y est descendu à pied et a ramené pour un temps très bref le très méchant chien Cerbère qui gardait l'accès des enfers. Héraclès l'a vite remis à sa place, car sur la surface de la terre, ce chien à tête multiple et à queue de serpent ne pouvait servir à rien. Thésée aussi a fait un séjour chez Hadès, et Orphée y est allé chercher sa femme décédée, son Eurydice. Mais aller dans l'Hadès en bateau, personne n'en avait eu l'idée. Homère montre qu'il connaît les traditions sur la descente de héros dans les enfers, et il montre aussi qu'il fait ce qu'il veut. Mais est-ce qu'on peut situer précisément ces enfers sur le cercle que forme l'océan, ce fleuve qui court autour du monde ? Il semble bien que ce soit à l'extrême ouest, tout près du lieu où le soleil se couche. C'est dans cette contrée qu'Ulysse aura à faire accoster son bateau pour rejoindre la maison d'Hadès. Les ténèbres des enfers sont dans l'Odyssée désignées par le mot Tzophos, région obscure. Or, ce mot est clairement de la même famille que le nom du vent Zéphyr, Tzéphyros, qui est le vent d'ouest, vent qui souffle depuis l'obscurité, depuis le couchant, notre ponant. Ulysse, poussé par le vent du nord pour partir de l'île de Circé, ira d'abord vers le sud, puis, en suivant le cours de l'océan, rejoindra ce point occidental extrême, ce lieu des ombres. Mais ce lieu à l'ouest est vraiment bizarre. Homer s'amuse encore une fois à introduire de la complication pour nous faire réfléchir sans doute. Il adore les paradoxes et adore nous laisser gamberger. Ses auditeurs à l'époque avaient moins de problèmes que nous. Ils connaissaient les centaines d'expressions qui pouvaient être rattachées à la description des enfers, au lieu où le soleil se levait et se couchait.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Such a violent spree. But maybe you can still make a man from me, a hero on Space Side Key. With what's left of me, as you live and breathe, I really know now what had hold on me.
Pierre Judet de Lacombe parle de l'affreuse surprise d'Ulysse quand Circé l'envoie chez Hadès.
Dans le récit d'un autre voyage aux enfers, à la toute fin de l'Odyssée, Homère, l'air de rien, donne en passant une image surprenante du lieu des enfers. Il est seulement allusif et fait comme si tout le monde comprenait. Il parle des portes du soleil, qui seraient situées par là, dans la partie la plus occidentale du monde. Il n'en dit pas plus. Cette expression, les portes du soleil, a surpris beaucoup de monde depuis l'Antiquité. Elle n'est vraiment pas facile à comprendre. Qui dit porte, dit maison. Comment le soleil pourrait-il avoir sa maison à l'ouest, alors que c'est là qu'il disparaît, et qu'ensuite il devient apparent à l'est? Où peuvent bien être ces portes et cette maison? Que veut dire Homère? Ce second voyage vers les enfers et celui que doivent entreprendre, à la toute fin du poème, les âmes des prétendants massacrés par Ulysse. Ils sont conduits par Hermès, le dieu aux sandales ailées. On va bien vers l'ouest, vers le couchant, pour rejoindre le séjour des morts, mais on passe d'abord par ce lieu très bizarre, les portes du soleil.
Hermès, le dieu étranger à tout mal, guidaient les âmes sur les chemins moisis. Ils allaient, passant les flots de l'océan, la roche blanche, ils passaient les portes du soleil et la contrée des rêves. Vite, ils arrivaient à la prairie d'Asphodèle, où habitent les âmes, ces images des hommes abattus.
On est bien du côté de la nuit, avec les rêves. Mais le seul repère visible, la roche blanche, est lumineux. Et surtout, il faut aller au-delà des portes du soleil. Les anciens et les interprètes modernes se sont demandé comment le soleil pouvait avoir là ses portes et donc sa maison. C'est bien le lieu où il disparaît, après sa course dans le ciel, pendant sa journée. Mais comment peut-on dire qu'il réside là, qu'il demeure là, puisqu'il se lève de l'autre côté du monde, à l'extrême est? Sa maison ne pourrait donc pas être à l'extrême ouest. On a donc parfois pensé que ce lieu était vers l'est, vers les levées du soleil. Mais ça ne va pas du tout avec les rêves, même si en général les rêves apparaissent à la fin de la nuit. En fait, on touche là une question sacrément difficile qui déchirait les poètes. Comme vous le savez, à l'époque, la Terre était plate. Dieu merci, elle ne le restera pas longtemps. Elle deviendra vite sphérique chez les Grecs. Le soleil se couchait à un bout de la Terre, là où Homère met le pays des ombres et les enfers, et il se levait à l'est, avant de grimper dans le ciel avec son char. Mais que faisait-il pendant toute la nuit? Comment allait-il de l'ouest à l'est sans se faire voir? La question se posait, elle était ardue. On inventait des solutions. Homère semble bien entrer dans ce débat. La solution la plus facile était de faire voyager le soleil d'ouest en est, en couchette, peinard, pendant toute la nuit, le long du cours de l'océan, ce fleuve qui fait le tour du monde. Le soleil disposait d'une coupe en or, façonnée comme un lit volant avec des ailes. Effleurant la crête des vagues, il se laissait porter depuis le jardin des Hespérides, ces filles du soir qui vivent à l'extrême ouest, jusqu'au pays des Éthiopiens, à l'est, au levant. Puis, il descendait de son lit et reprenait son travail le matin, à l'est. Il n'était alors pas question de porte ou de maison du soleil à l'ouest, c'était plutôt simple. Le soleil était toujours en mouvement, de nuit comme de jour. Il n'avait pas vraiment de maison, un nomade. Le poète Minerme, du début du VIe siècle avant Jésus-Christ, a proposé une telle solution.
Le soleil s'est vu attribuer un travail quotidien. Il n'y a aucune pause, jamais, pour ses chevaux et pour lui, quand Aurore aux doigts de rose quitte l'océan et s'élève dans le ciel. Car sur la houle porte un lit mille fois désirable, martelé en creux par les mains d'Héphaïstos, dans un or de prix. Des ailes le soutiennent sur la crête de l'eau. Vite, pendant qu'il dort, depuis le domaine des Hespérides jusqu'à la terre des Éthiopiens, où son char rapide et ses chevaux sont en place, jusqu'à la venue de l'aurore, née du matin. Là, il monte sur son char, le fils d'Hyperion.
Un historien lui a fait remarquer que les chevaux, qui avaient conduit le soleil le long de la voûte du ciel pendant la journée, ne pouvaient pas l'attendre à l'est. Ils devaient faire le voyage avec le soleil, dans la coupe d'or. Homère, avec ses portes du soleil, ne se rallie visiblement pas à cette solution. Il se contente de nous laisser une énigme qui a fait couler beaucoup d'encre. J'avoue que cette énigme m'a bien perturbé longtemps. Je ne suis pas sûr du tout d'avoir une solution. Et je vous raconte quand même. Peut-être qu'il faut se laisser aller, laisser courir son imagination et imaginer qu'Homère ne parle pas d'un lieu repérable dans un espace géométrique normal. Peut-être qu'il fait quelque chose d'étonnant. Il imagine un lieu extrême, hors du monde, au-delà de l'océan, où les contraires, le coucher et le lever du soleil, sa disparition puis sa réapparition coïncident. Un imaginaire qui est au-delà des oppositions bien visibles, bien connu. Le soleil est autant chez lui à l'ouest où il se couche et à l'est où il se lève. Entre les deux, il y a sa maison, c'est-à-dire le lieu obscur où il ne se montre pas, où il devient invisible avant de reprendre sa course diurne. Franchir la porte de sa maison veut dire devenir invisible jusqu'au lever. Or, l'invisibilité est plutôt vers l'ouest, lieu de la disparition et non de l'apparition. La maison du soleil est cette invisibilité de toute une nuit. Le pays des morts est bien du côté où le soleil disparaît, du côté de la porte qu'il franchit pour rentrer chez lui dans sa maison en devenant invisible. En fait, Homère n'est pas le seul à imaginer ainsi une maison nocturne du soleil. Un poète sicilien plus récent que lui, Stésichore, qui a vécu au début du VIe siècle avant Jésus-Christ, et dont nous n'avons malheureusement que des fragments, nous parle d'une course du soleil sur l'océan après son coucher. Une course vers les ténèbres de la nuit, là où il rejoint sa famille et donc sa maison. C'est vraiment surprenant.
Soleil, fils d'Hyperion, montait dans la coupe d'or pour franchir l'océan et atteindre les abîmes de la nuit sacrée, ténébreuse, près de sa mère, de sa femme légitime et de ses enfants chéris.
Une fois qu'il s'est couché à l'ouest, le soleil doit franchir l'océan sur une embarcation, une coupe d'or, pour aller s'enfoncer dans les profondeurs de la nuit. C'est là que vit sa famille. Il remontera de ces profondeurs obscures pour rejoindre le pays de l'aurore, à l'est. Il y a donc là un paradoxe qui est en fait clair, si on peut dire. La maison du soleil, là où il réside quand il ne court pas le ciel avec ses chevaux, est nocturne. Son lieu familier, en dehors des heures de travail, c'est la nuit. Le soleil au repos doit s'imaginer aussi nocturne, dans une maison du côté de l'obscurité.
Elle est retrouvée. Quoi ? L'éternité. L'éternité. C'est la mer. Allez. Avec le soleil, avec le soleil,
pourquoi raconter tout cela? Parce qu'il y a un lien fort, une forte ressemblance entre la course du soleil, jour et nuit, et le voyage d'Ulysse. En allant à l'extrême ouest, en passant près des portes du soleil pour rejoindre la maison des morts, puis en revenant chez Circé du côté de l'Orient. Ulysse fait une expérience extraordinaire, analogue à celle du soleil. Il va vivre le même cycle, une disparition, puis un retour au visible à la lumière le lendemain. En termes humains, cela voudra dire un passage par la mort, puis une renaissance. Cela, cette expérience radicale, Ulysse la vivra en passant par les parties extrêmes du monde, dont il aura ainsi fait le tour complet.
Elle est retrouvée. Quoi ? L'éternité. L'éternité.
Circé lui dit de faire attention. Aller chez les morts tout en restant vivant, tout en se gardant la possibilité de revenir, ce n'est pas facile. Il faut accomplir un rituel compliqué. Quand il sera arrivé près d'un rocher, à l'endroit où se rejoignent les fleuves des enfers, il devra creuser un trou, y verser des libations pour tous les morts, avec du lait mêlé de miel, du vin, de l'eau et de la farine bien blanche. Il devra promettre aux morts qu'à son retour chez lui, il leur sacrifiera une génisse. Il devra promettre ou devint Tirésias, qui l'aura vu, qui lui sacrifiera un grand bélier tout noir, sans tache. Sur place, il faudra égorger un agneau et une brebis, en se tournant vers l'ouest, vers les ténèbres. Mais lui, le sacrificateur, il ne devra pas regarder dans cette direction, il devra se tourner vers l'océan, par où il est arrivé. Les âmes des morts vont alors accourir en foule, attirées par le sang des bêtes égorgées. Ces âmes sont sans force, elles voudront profiter de la vigueur qu'il y a dans le sang. Il faudra surtout les écarter de ce sang. Il est essentiel que l'âme de Tirésias boive la première, car c'est lui qu'Ulysse est venu consulter.
Il te dira ta route et les mesures de ta route, et comment revenir par la mer poissonneuse.
Ulysse doit annoncer cette très mauvaise nouvelle à ses compagnons. Leur bateau ne fera pas cap vers Ithaque, mais vers les enfers. Comment va se passer ce voyage incroyable ?
Achille. Achille n'existe plus. Il est mort, les armes à la main dans la plaine de Troie.
Tant que tu étais vivant, on t'honorait comme un dieu, et ta renommée est si glorieuse que même en ces lieux, tu domines les défunts. Ainsi donc, tu ne dois pas t'attrister d'être mort, Achille.
Non, ne cherche pas, veux-tu, à me consoler. Il me serait plus satisfaisant d'être le dernier valet d'un pauvre fermier, mais d'être encore vivant sur la terre, que d'être le premier de tous ces êtres éteints. Il faut aimer la vie, Ulysse. La vie est un bien inestimable, ne l'oublie pas.
Qu'est-ce que ça fait, passer l'océan, les brumes, puis voir les morts, ceux qu'on a aimés, et aussi les autres, qu'on n'a pas forcément aimés. Voir devant soi les images des êtres de légende, femmes et hommes, les ombres des grands condamnés des enfers. Comment sort-on de cette expérience? Nous essaierons de suivre Ulysse la semaine prochaine dans ce voyage très périlleux. Mais pour revenir.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Vous retrouverez toutes les références bibliographiques de cet épisode sur le site de France Inter. Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia. Les archives sonores ont été choisies par Claire Tesser. Les textes ont été lus par Yaël Eladad et Laurence Stocker, avec la voix d'Andrea Lechêne. La programmation musicale est de Thierry Dupin. Bonne journée sur France Inter.